Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Eponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Emma Paul Duboiten, vétérinaire équin en région rennaise et j'ai rejoint Eponavette il y a quelques mois. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série sur les maladies infectieuses des équidés et pour introduire ce nouveau thème, je vous propose de parler d'un sujet d'une grande importance quand il s'agit des maladies infectieuses, la biosécurité. Ce mot ne vous dit peut-être rien, mais vous allez vite comprendre pourquoi la biosécurité c'est si important, et peut-être que cela vous donnera de bonnes idées pour mieux protéger vos chevaux des maladies infectieuses. Alors la biosécurité, qu'est-ce que c'est ? La biosécurité, c'est le résultat de l'ensemble des mesures que l'on met en place au sein d'une structure équestre pour réduire l'introduction des maladies infectieuses au sein de la structure, mais aussi réduire la transmission des maladies infectieuses entre les chevaux au sein d'une même structure ou bien à des structures extérieures. Donc la biosécurité, elle concerne tous les détenteurs d'équidés, quelle que soit la taille de l'effectif, mais aussi les propriétaires et les visiteurs des structures équestres, y compris les professionnels, qui peuvent favoriser l'introduction et la transmission des maladies infectieuses entre les structures. Alors, de quelles maladies infectieuses parle-t-on ? Les maladies dites infectieuses, ce sont des maladies bactériennes, virales ou parasitaires qui se transmettent entre les chevaux par contact direct ou indirect et qui sont donc contagieuses. Les plus connues, ce sont les infections respiratoires comme la gourme, la grippe ou la rhinopneumonie, mais on peut aussi citer la rhodococcose chez le poulain, en particulier en contexte d'élevage. Il existe aussi des maladies infectieuses digestives qui entraînent le plus souvent des diarrhées, comme la rotavirose chez le poulain ou bien la salmonellose. On peut aussi avoir des formes génitales ou encore nerveuses, comme les autres formes de la rhinopneumonie ou encore la maladie de West Nile. Certaines de ces maladies feront l'objet d'un podcast bien sûr pour rentrer plus en détail. La transmission de ces maladies, elle est possible par différents moyens qui dépendent de la maladie elle-même. Les agents infectieux, donc les bactéries ou les virus, ils se logent et ils se multiplient dans des sites spécifiques. Ça peut être les voies respiratoires, le système digestif, le système nerveux. Et ils peuvent ensuite être excrétés via diverses sécrétions. Donc quand il s'agit d'infections respiratoires, ce sont souvent les sécrétions nasales, dans les crottins lors de diarrhées infectieuses ou encore via les urines. Et donc de cette façon, le cheval peut transmettre les agents infectieux, soit par contact direct, typiquement les contacts nez à nez pour transmettre les sécrétions nasales dans les cas d'infection respiratoire, ou bien indirectement. On peut avoir une transmission par la contamination de l'environnement du cheval, par exemple la contamination de l'abreuvoir, du bac à eau, de la mangeoire, avec les sécrétions respiratoires qui vont ensuite être transmises à d'autres chevaux qui vont aller boire au même endroit, ou bien par échange de boxe. On peut aussi avoir une transmission par la contamination d'un support qui entre en contact avec l'agent infectieux, donc ça peut être un objet, la fourche, la brouette, mais aussi les personnes ou les animaux comme les chiens, qui peuvent ainsi transporter les bactéries ou les virus d'un cheval à un autre. Donc là on parle de vecteur de transmission. Les personnes et les animaux qui circulent à la fois au sein d'une structure équestre, mais aussi parfois dans plusieurs structures, ce sont donc des vecteurs potentiels de maladies infectieuses qui peuvent contribuer involontairement à la propagation d'une épidémie. Donc on pense en particulier aux cavaliers qui peuvent fréquenter plusieurs structures, soigneurs, maréchal ferrant, enseignants, vétérinaires, ostéopathes, voilà, ça peut être plein de monde. Alors comment prévenir le risque d'épidémie ? La vaccination, c'est un élément clé dans la maîtrise des épidémies pour les maladies contre lesquelles il existe un vaccin seulement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours de vaccin possible et c'est pas toujours suffisant. C'est pourquoi c'est intéressant de mettre en place des mesures de prévention complémentaires pour protéger ses chevaux des épidémies. Il y a deux situations qui sont particulièrement à risque pour l'introduction de maladies infectieuses dans un effectif. C'est l'introduction d'un nouveau cheval et les mouvements de chevaux pour les compétitions ou tout rassemblement équestre. Donc à l'introduction d'un nouveau cheval, on ne connaît en général pas ou peu ses antécédents médicaux ni ses conditions de vie passées. Il peut potentiellement être porteur de maladies infectieuses avec un risque de contamination des chevaux qui sont déjà présents. La vigilance, elle doit être particulièrement accrue dans certaines conditions, chez les jeunes chevaux dont l'immunité n'est pas encore complètement au point et qui sont de façon générale plus sensibles aux infections, et les conditions qui vont favoriser un stress. Les chevaux qui ont subi des changements de troupeau, des longs transports qui génèrent du stress, ça peut favoriser le développement de maladies infectieuses, principalement respiratoires, et elles se déclarent souvent quelques jours après l'arrivée. Donc ces deux conditions, changement de troupeau, de congénère, long transport, c'est particulièrement représenté dans les cas d'importation depuis les pays étrangers. Donc vigilance particulière quand on a des chevaux importés depuis l'étranger. Un nouvel arrivant doit donc, dans l'idéal, être isolé pendant quelques jours à l'écart des autres chevaux, afin de limiter le risque de transmission de maladies dont il serait éventuellement porteur à son arrivée. On appelle cette période la quarantaine, historiquement parce qu'elle durait 40 jours. Alors pour bien comprendre la durée de la quarantaine, en fait il faut se représenter qu'en cas de contamination, on a un temps d'incubation. Pour les principales maladies respiratoires, il est de 3 à 15 jours, et c'est le temps pendant lequel un cheval contaminé n'exprime pas de symptômes, mais il peut déjà être porteur et donc potentiellement excréteur de l'agent pathogène. La durée recommandée de quarantaine, c'est donc un peu plus de 15 jours, on considère plutôt 3 à 4 semaines. Ça permet de laisser le temps d'incubation au cheval avant l'apparition de signes cliniques d'une maladie infectieuse s'il est effectivement porteur. Pendant la période de quarantaine, c'est intéressant de prendre la température rectale du cheval afin de déceler précocement un problème infectieux. L'augmentation de la température rectale, elle précède en général les symptômes respiratoires comme la toux ou le jetage. On peut également procéder à des prélèvements respiratoires par écouvillonnage nasopharyngé pour dépister les principales infections respiratoires comme la grippe, la rhino ou la gourde. Mais attention, les résultats ne sont pas forcément concluants en l'absence de symptômes. Il y a toujours un risque de faux négatif et donc ça ne dispense pas d'une période de quarantaine. Une autre situation à risque, c'est le retour d'un cheval d'un événement, donc course, compétition, rassemblement, au cours duquel il a été en contact avec d'autres chevaux, il a pu donc être contaminé par un agent infectieux. La vaccination, elle permet de limiter le risque de développement pour les maladies respiratoires contre lesquelles on vaccine. Mais attention, elle n'est pas invincible, le risque il existe malgré tout, en particulier pour la rhinopneumonie aujourd'hui. Donc dans ce cas, un suivi régulier du cheval avec une observation, prise de température quotidienne, permet de détecter précocement une anomalie et de mettre en place les mesures nécessaires que nous allons voir ensuite. Et donc vigilance particulière quand on va en compétition, qu'on va chercher de l'eau pour son cheval, on évite de tremper directement le seau d'eau dans un gros bac. Là c'est vraiment un milieu de culture parfait pour les bactéries et les virus. On se sert du robinet ou du tuyau sans le faire tremper dans le seau pour éviter de mettre en contact l'eau qu'on va donner au cheval avec des agents pathogènes qui seraient présents soit autour du tuyau, soit dans le bac à eau lui-même. Dernier point de prévention concernant les structures qui hébergent différentes classes d'âge. Les jeunes chevaux et en particulier les poulains sont plus fragiles que les adultes vis-à-vis des maladies infectieuses. Donc on peut organiser un circuit de soins qui va du plus fragile vers le plus résistant. Donc pour les soins quotidiens, on commence par d'abord s'occuper des poulains et de leur mère, donc avec des vêtements propres le matin. Ensuite on va faire les jeunes chevaux et en dernier on va s'occuper des adultes qui seront beaucoup moins embêtés par les germes éventuels qu'on va trimballer sur nos vêtements, sur nos mains, etc. On restreint également l'accès aux écuries, que ce soit pour les chevaux ou pour les visiteurs extérieurs, afin de limiter le risque de contagion. Comment gérer une épidémie dans votre structure? Un cheval fait de la température et a du jetage nasal dans votre écurie? Alors pas de panique, nous allons mettre en place des mesures de biosécurité. Avant même l'intervention du vétérinaire, vous pouvez agir. On va voir ça en plusieurs étapes. La première étape, c'est la plus importante, c'est de limiter la propagation de l'infection. Donc c'est là que les mesures de biosécurité prennent tout leur sens. D'abord, on va commencer par l'isolement de la structure. Plus aucun cheval n'entre et ne sort. La durée d'isolement, elle est variable, mais on peut compter un mois à minima a priori. En cas de confirmation du risque infectieux, il est important d'assurer une bonne communication avec les différents intervenants, donc les propriétaires, les cavaliers, les soigneurs, maréchal ferrant, afin de les informer de la situation et d'anticiper des contaminations sur d'autres sites. Ensuite, on va procéder à l'isolement du cheval malade ou des chevaux malades, si possible dans un box dédié ou un espace à l'écart des autres chevaux, mais aussi à l'écart du passage des personnes et des chevaux. Et on met en place un signalement clair, si possible avec une séparation physique, pour éviter que les personnes ou d'autres chevaux entrent en contact avec. Ensuite, on va procéder au zonage de la structure. Donc là, il s'agit de séparer les chevaux du site en trois groupes. D'abord, on va identifier les chevaux qui sont en contact avec le cheval malade, ils sont peut-être aussi contaminés et ils doivent donc être isolés du reste de l'effectif afin de limiter la contagion à l'ensemble des chevaux présents. Donc on définit comme ça trois zones. La zone rouge, c'est les chevaux malades, donc présentant des signes cliniques. Dans le cas des maladies respiratoires, c'est de la fièvre avec de l'hyperthermie, jetage nasal, toux, abattement, etc. Ensuite, la zone orange, des chevaux en contact direct avec les chevaux malades, qui sont donc considérés à risque. Typiquement, ça va être les voisins de boxe ou bien les chevaux de la même pâture. Et enfin, la zone verte, qui correspond aux chevaux qui sont a priori pas en contact avec les précédents. Les zones, elles doivent être autant que possible matérialisées, visuellement, voire même physiquement, avec barrières, rubalises, ce que vous avez, et on restreint les mouvements entre les zones. Donc afin de limiter le risque de propagation de la maladie au cours du nourrissage et de l'entretien des chevaux, on organise un circuit de soins de la zone indemne vers la zone la plus contaminée, en commençant donc par la zone verte, des chevaux sains, puis la zone orange, et on termine par la zone rouge avec les chevaux malades. Et surtout pas dans l'autre sens, parce que là on risquerait de contaminer les chevaux qui vont bien. Chaque zone doit, dans l'idéal, disposer de son propre équipement, donc balai, brouette, pelle, etc. En tout cas, tout ce qui rentre dans la zone rouge n'en sort pas, ou alors ça doit être nettoyé et désinfecté pour être réutilisé ailleurs. Pareil pour les personnes qui font le circuit de soins, une fois qu'ils sont sortis de la zone rouge, l'idéal c'est de rentrer chez soi, se changer, se doucher, pour essayer de se débarrasser du maximum d'agents infectieux qu'on aurait sur nous. On comprend bien que le principal vecteur au sein d'une écurie, mais aussi en dehors, c'est l'humain. Donc pour les zones orange et rouge, il est recommandé de porter des équipements de protection spécifiques, jetables de préférence, à retirer précautionneusement en sortant de la zone. Comme ça, après, on peut continuer à vaquer à ses occupations au sein de l'écurie, même si l'idéal, c'est de rentrer chez soi. Donc à prévoir à l'entrée de la zone, des gants à la bonne taille si possible, des surbottes, des blouses ou des casaques jetables dans l'idéal, et surtout, très important, des charlottes. Les cheveux, c'est vraiment un support génial pour les bactéries et les virus, c'est à hauteur des naseaux des chevaux, donc c'est vraiment très important de protéger ses cheveux. À la sortie, on va mettre une grande poubelle fermée pour pouvoir se débarrasser de tous les équipements jetables. On met aussi en place un pédiluve qu'on va renouveler tous les jours pour désinfecter ses semelles, parce que malheureusement les surbottes elles peuvent trouer à cause des cailloux par exemple, et donc on peut avoir des chaussures contaminées. Et aussi on va mettre du gel hydroalcoolique pour se frictionner les mains, même si on a porté des gants. Nos animaux de compagnie, ils sont pas innocents non plus et ils sont pas capables malheureusement de respecter les mesures de biosécurité. Il est donc conseillé d'écarter les chiens de la structure le temps de l'isolement afin de limiter leur déambulation et le risque de transmission associé. On a donc isolé la structure, les chevaux malades, défini les zones et organisé le circuit de soins. Souvent, le vétérinaire est déjà intervenu pour effectuer des tests de dépistage qui permettent le plus souvent, mais pas tout le temps, de confirmer la nature infectieuse et la contagiosité de la maladie. Le vétérinaire informe le RESP du foyer de contamination, et le RESP, donc c'est le réseau d'épidémio-surveillance en pathologie des équidés, va ensuite informer la communauté équestre sans divulguer d'informations précises, hein, ce sont des alertes au niveau départemental. Concrètement, à quoi ça sert ? Ça sert à surveiller la présence des maladies infectieuses et leur évolution sur le territoire français, et même européen, voire mondial. Et donc, en contexte d'épidémie, le RESP permet de prendre des décisions de restriction de mouvement des chevaux au niveau local pour limiter l'extension de l'épidémie et donc protéger l'ensemble de la population de chevaux. Leur rôle est hyper important d'un point de vue de la protection des chevaux en France. Comment on prend soin des chevaux sains et malades au cours de la période d'isolement ? Alors dans la plupart des cas, en tout cas pour les maladies respiratoires, il n'y a souvent aucun traitement spécifique, que ce soit antibiotique ou antiviral, qui est vraiment nécessaire. Tout dépend de la maladie, bien entendu. On peut mettre en place des traitements symptomatiques avec des anti-inflammatoires, par exemple, pour aider les chevaux à gérer la fièvre. Le rôle du propriétaire ou du gérant est vraiment hyper important. D'abord, en apportant le maximum de confort aux chevaux malades qui ont besoin de repos et d'une bonne alimentation pour lutter contre la déshydratation et combattre efficacement l'infection. Et ensuite, ils assurent la surveillance et la détection précoce des nouveaux cas. Donc les chevaux de la zone verte et de la zone orange, il faut les observer quotidiennement et chercher la présence de symptômes ou de l'hyperthermie, hein, puisque c'est toujours le premier symptôme. Pour rappel, hyperthermie, c'est température rectale supérieure à 38,5, même plutôt 39, hein, dans des cas de maladies infectieuses. Donc l'idéal, c'est de la prendre une fois par jour. Si on a un cheval qui présente de l'abattement, une augmentation de la température et des symptômes respiratoires, alors il est considéré comme infecté. La simple augmentation de température suffit à le considérer comme un individu malade, et donc il va passer directement en zone rouge. Une bonne communication entre le gérant et le vétérinaire permet de gérer sereinement la situation et d'anticiper les difficultés. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre vétérinaire pour vous aider. Enfin, comment on sort de l'isolement ? Alors, dès la résolution des signes cliniques, on peut pratiquer des tests de dépistage de l'agent infectieux pour établir le statut des chevaux et confirmer la maîtrise du risque infectieux. Le problème, c'est que ces tests, ils sont onéreux, d'une part, surtout quand on a beaucoup de chevaux. Donc le plus souvent, on considère qu'une période d'isolement de 3 semaines après la disparition des symptômes sur le dernier individu malade permet le plus souvent de limiter le risque de contagion. Après, il y a des mesures spécifiques à chaque maladie, donc bien sûr, c'est à adapter en fonction des cas. Au cours, mais surtout à la fin de la période d'isolement, vient le temps du nettoyage et de la désinfection des équipements et des locaux. Donc d'abord, il faut nettoyer les équipements afin de retirer toute la matière organique, donc crottin, boue, etc., avant de désinfecter. Et pour la désinfection, on utilise un produit adapté, donc renseignez-vous auprès de votre vétérinaire, il saura vous conseiller en appliquant les dilutions et les temps de pause préconisés. C'est hyper important parce que sinon on peut avoir des échecs de désinfection. D'autres actions complémentaires telles que la vaccination peuvent être décidées avec votre vétérinaire, mais l'application des mesures de biosécurité, c'est primordial pour contenir la maladie, réduire la durée de l'isolement et limiter l'impact sur la structure et les structures environnantes. Pour ça, une bonne organisation et une bonne communication entre les différents acteurs, c'est la clé d'une épidémie bien gérée.